difficultés techniques, mais maintenant ça va, je m'appelle Angela Lopez et je suis du groupe GDD. Nous allons vous demander de vous mettre en mode silencieux si vous êtes en ligne et écoutez donc ce webinaire. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler de suivre également les règles de comportement de l'ICA. Nous avons un lien qui explique cela dans Adobe Connect. Pour faciliter la participation globale, nous avons l'interprétation en arabe, chinois, français, russe et espagnol. Nous aurons une heure de webinaire aujourd'hui. Nous aurons une séance de questions-réponses à la fin. Le webinaire est enregistré en anglais et sera disponible sur notre site web dans la section RDAB. Donc je suis en effet de la section et de la division des domaines mondiaux. Et vous pouvez poser vos questions dans le chat box. Indiquez question avant et après votre question, le texte de votre question. Indiquez également votre nom et votre affiliation. Lorsque vous posez une question, merci beaucoup. Je vous souhaite donc la bienvenue au nom de la division des domaines mondiaux. Eduardo Alvarez, responsable technique à ICANN, groupe des services techniques, va nous parler aujourd'hui une nouvelle fois. Veuillez vous mettre en mode silencieux. Je donne la parole, sans plus attendre, à Eduardo Alvarez. Merci beaucoup Angelina, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de se joindre à nous, de vous joindre à nous aujourd'hui. Ce webinaire, c'est donc le protocole d'accès aux données d'enregistrement des noms de domaines pour les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre de GTLD. Nous allons vous parler de différents critères. Il y a eu des questions qui nous sont arrivées, donc nous allons essayer d'y répondre. Et après la brève présentation que j'effectuera, nous aurons environ une demi-heure, pour des questions. Donc sans plus attendre, commençons notre webinaire sur ce protocole d'accès aux données d'enregistrement des noms de domaine. À l'ordre du jour, nous allons avoir une introduction. Nous allons parler des problèmes qui se posent aujourd'hui. Et nous allons ensuite passer à différents thèmes. Pour les registres et bureaux d'enregistrement, en ce qui concerne les services RDAP. Et ensuite, nous passerons au bureau d'enregistrement, ce qu'ils doivent savoir, donc. Donc, nous allons vous parler donc de la mise en œuvre du WHOIS, des problèmes qui se posent avec WHOIS. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de format standardisé au niveau du WHOIS. Donc, il n'y a pas d'étiquetage cohérent. Il y a un manque de soutien pour l'internationalisation au niveau du WHOIS. Pas de soutien pour les différents scripts, alphabets, et ainsi de suite. C'est tout à fait limité au niveau des protocoles. Nous n'avons pas la capacité d'authentifier les utilisateurs lorsqu'il y a des requêtes WHOIS qui sont effectuées. Donc ce n'est pas les mêmes niveaux d'accès pour les utilisateurs finaux. On ne fait que principalement de la recherche avec WHOIS, donc il n'y a pas de soutien pour diverses recherches. Il n'y a pas de soutien pour la recherche d'objets multiples, il y a un manque de redirection standardisée de référence. Par exemple, notre registre ne peut pas, si j'utilise le service WHOIS, je ne peux pas faire de redirection vers un bureau d'enregistrement, vers un serveur de bureau d'enregistrement pour obtenir des informations sur un nom de domaine spécifique. Nous n'avons pas de manière standardisée de savoir auprès de quel serveur on doit effectuer la requête. Donc, nous avons un contrat actuel, les opérateurs de registre ont donc une liste dans l'espace GTLD à whois.nic.dot.tld, mais les bureaux d'enregistrement n'ont pas de standardisation à ce niveau. Donc on va essayer de régler ça avec le RDAP, avec ce protocole d'accès aux données d'enregistrement des noms de domaine. Il y a une certaine insécurité de par le fait qu'on ne peut pas authentifier les serveurs et que ce ne sont pas des informations chiffrées, donc il n'y a pas de chiffrement entre le serveur et le client. Donc on peut voir éventuellement les réponses. Donc, pour vous parler un petit peu plus des caractéristiques du RDAP, de ce protocole d'accès, donc c'est un protocole qui a été conçu par l'IETF, nous avons le numéro du RFC 74-80-74-84, visant à remplacer les protocoles WHOIS existants avec les avantages et les fonctionnalités suivantes. Voilà les avantages. Donc, les réponses aux requêtes sont standardisées avec le même format, même si nous avons différents éléments de données dans les... Nous avons donc des réponses standardisées, des messages d'erreur standardisés. Il y a un accès sécurisé aux données. Ça peut être effectué avec le HTTPS. Il y a des possibilités d'évolutivité également qui sont notables. Ça nous permet de rajouter des éléments, ce qui est donc tout à fait intéressant. Nous avons également un accès différencié aux données. Les utilisateurs peuvent s'authentifier, y avoir un accès limité donc pour les utilisateurs anonymes et un accès total pour les utilisateurs authentifiés. Donc, nous voyons par exemple que les utilisateurs authentifiés peuvent avoir toutes les données d'enregistrement d'un nom de domaine, mais quelqu'un qui n'est pas authentifié ne va pas avoir un accès aussi important que les opérateurs des services RDAP. Nous avons également un soutien pour des mécanismes d'amorce. Nous avons des protocoles pour les clients web, et ça permet de voir quel nom de domaine obtiennent des requêtes, et voir quelles sont les informations pour des objets, et comment on peut trouver donc ces informations concernant des objets. Nous avons également un mécanisme de redirection standardisé, passant d'un registre, d'un opérateur de registre à un bureau d'enregistrement, donc par rapport aux différents serveurs et ainsi de suite. Nous avons un lien vers le bureau d'enregistrement. Donc le protocole est bâti au-dessus de HTTP, qui est un protocole web bien connu. Il y a un soutien pour l'internationalisation des données d'enregistrement, et cela permet de faire des recherches pour des objets. Donc on peut obtenir des formulaires de réponse pour différents noms de domaines. Donc, par rapport donc à la mise en œuvre de RDAP, ça a commencé en 2011, le 19 septembre. SSAC 051 nous indiquait que la communauté ICANN devrait évaluer et adopter un protocole d'accès aux données d'enregistrement, un nouveau. Un mois plus tard, le conseil d'administration a adopté SAC 051. En juin 2012, le 4 juin exactement, il y a eu une feuille de route pour mettre en œuvre SAC 051 qui a été publiée. Et la communauté de RDAP a travaillé avec le groupe de travail de l'IATF. En mars 2015, il y a eu une publication donc du RFC. Au mois de juin 2015, le travail a commencé par rapport au profil de RDAP des GTLD qui indiquait les caractéristiques de RDAP par rapport aux politiques existantes et aux critères contractuels. La chronologie continue sur cette mise en place du RDAP le 26 juillet 2016. La version 1.0 du profil RDAP GTLD a été publiée. Le 9 août 2016, le groupe de représentants des opérateurs de registre a soumis une requête de reconsidération au sujet de l'inclusion de RDAP par rapport aux différentes politiques d'affichage et d'étiquetage. Le 1er février 2017, nous avons donc eu une politique sur l'affichage et l'étiquetage cohérente qui a été révisée. Le 1er août 2017, un petit peu plus tard dans l'année, l'organisation ICANN a reçu une proposition de la part du groupe des représentants des bureaux d'enregistrement avec un soutien de la part du groupe de représentants des opérateurs de registre envie de mettre en œuvre la RDAP. Le 1er septembre 2017, ICANNORD a répondu en acceptant la proposition de ce groupe de représentants des opérateurs de registre. Et c'est ainsi qu'a commencé le programme pilote RDAP. Et l'année dernière, le 25 mai, il y a eu des spécifications temporaires pour l'enregistrement des GTLD, des données GTLD, pour les registres des GTLD, opérateurs de registres et bureaux d'enregistrement, pour mettre en œuvre la RDAP à la suite d'un profil commun du SLA et des registres. En août 2018, il y a eu donc ce profil RDAP qui a été publié et proposé pour des commentaires publics le 27 février 2019. ICANNORD a donc envoyé une note aux parties contractantes demandant la mise en œuvre de RDAP. Et il y a eu la publication du profil RDAP des GTLD que vous pouvez trouver sur le lien qui est donné dans le chat. Le 26 août 2019, eh bien là ce sera une date, c'est une date limite pour la mise en œuvre du RDAP pour les opérateurs de registre GTLD et pour les bureaux d'enregistrement. Alors, le statut actuel de la mise en œuvre, nous avons parlé un petit peu donc de ces spécifications temporaires. Nous avons parlé du profil commun RDAP. Nous avons parlé de tous ces critères nécessaires. Pour ces deux derniers points, donc guide d'implémentation technique, profil, réponse, ainsi de suite, on y travaille toujours. Et ICANNORD recommande que les bureaux d'enregistrement et registres mettent en œuvre le service RDAP sur la base de ce qui a été publié en février 2019. Une nouvelle fois, cette date limite est fixée au 26 août 2019. Nous pouvons maintenant passer à des considérations qui s'appliquent à la mise en œuvre pour les opérateurs de registre et bureaux d'enregistrement. Ce qui est le plus important, c'est que cette date limite est le 26 août 2019 pour que les services RDAP soient disponibles. Nous avons parlé donc du profil qui est, donc vous l'avez à l'écran, vous avez le profil GTLD RDAP, RDAP GTLD qui a été créé conjointement avec un groupe d'opérateurs de registre GTLD et de bureaux d'enregistrement qui consiste de deux documents. Un document qui est un guide de mise en œuvre technique, donc des instructions techniques, comment gérer, mettre en œuvre le RDAP, et également le profil des réponses RDAP. Donc les critères de politique pour la mise en œuvre du RDAP et pour incorporer différents changements. Actuellement, l'organisation ICANN recommande aux opérateurs de registre GTLD ou bureau d'enregistrement de mettre en œuvre le service RDAP basé sur le profil publié en février 2019. Pour standardiser un petit peu tout cela. Donc, la première des considérations que nous trouvons, c'est le transport IPv6 et IPv4. Donc le critère, c'est que les services RDAP doivent être disponibles pour ce transport IPv4 et IPv6. Ça, c'est dans le guide de mise en œuvre technique du RDAP pour les RDAP, les serveurs RDAP, pour que les hôtes puissent transférer donc, et transporter. Donc en ce qui concerne l'ancrage et le certificat de serveur TLS, l'autre recommandation ici, c'est de s'assurer d'utiliser la meilleure pratique du RFC 7525, uniquement en utilisant le HTTPS, utilisant le certificat TLS, utilisé avec le serveur RDAP. Nous avons donc la possibilité de valider avec succès le certificat TLS utilisé pour les services RDAP, avec l'utilisation de DANE, qui est extrêmement importante, l'authentification d'entités nommées basées sur le DNS. Sera excellent en utilisant DANE. Ça, c'est un critère de la section 1.5. Donc, En ce qui concerne le soutien DNSSEC, des extensions de sécurité du système des noms de domaine, donc le service RDAP doit utiliser le DNSSEC, les ressources DNSSEC, pour que les enregistrements relatifs à la signature de délégation soient solides et qu'il y ait une chaîne de confiance qui existe au niveau de la clé de la zone racine. C'est important pour les serveurs donc de la zone racine et les serveurs utilisant RDAP. En ce qui concerne les éléments de réponse, des champs de réponse DNSSEC, nous avons actuellement des critères WHOIS au sujet du DNSSEC, c'est d'ajouter un champ qui spécifie que la délégation est signée ou pas. Donc, RDAP permet au registre de spécifier les paramètres DNSSEC comme le key tag, la synthèse, le digest, et on recommande également que les réponses donnent toutes les informations disponibles, les données DNS et ainsi de suite, et tous les éléments que vous connaissez par rapport au DNSSEC, à ces extensions de sécurité du système des noms de domaine. Alors, en ce qui concerne les noms de pays, les codes pays et les réponses, les informations de contact, les adresses, nous avons donc au niveau de RDAP une carte J-Card qui est un standard où il y a le nom du pays tout entier plutôt que l'ISO 3166 qui avait été la norme avec le WHOIS qui existe actuellement. Donc il y a un nouveau paramètre qui va être inscrit dans RDAP pour soutenir les noms de pays à deux lettres. Donc ce qui compte ici, ce qu'il faut savoir, c'est que avant ce nouveau paramètre disponible, les services RDAP peuvent stipulés dans le champ du pays peuvent mettre simplement le code pays et pas le nom du pays tout entier. Voilà donc la différence au niveau de ces protocoles. Donc ça, c'est un nouveau paramètre de code pays. Donc, il ne faut pas utiliser le nom de pays dans la réponse RDAP. Donc ça, c'est le document du profil RDAP. Donc, nous avons des critères qui ne soutiennent pas toutes ces demandes. On utilise des IDN. Les noms IDN sous la forme de nouvelles éthiques, de nouvelles étiquettes par exemple. Donc en ce qui concerne le soutien des demandes, nous avons également pour le soutien des ressources un soutien pour recevoir des demandes et des requêtes de différents clients RDAP. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre du serveur RDAP, il y a donc différents types de réponses qui vont être utilisées, qui vont permettre des requêtes dans le cadre du serveur RDAP, par exemple des navigateurs Internet, des butineurs. Donc ce par rapport au serveur des opérateurs de registre ou des bureaux d'enregistrement. Donc en ce qui concerne les critères de non-divulgation, nous avons diverses spécifications temporaires qui existent. Vous pouvez vous référer au lien qui est à l'écran. C'est un document pour le profil des réponses qui indique comment on fait de la non-diffugation, de expurger certaines données. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu un certain changement au niveau du profil RDAP. Donc ça c'est dans le cadre de l'EPDP que cela existe. Et actuellement, c'est comme cela que l'on peut l'utiliser.
Maintenant, passons aux considérations qui sont spécifiques aux opérateurs de registre. On dirait qu'il y a une URL de base de RDAP pour les opérateurs de registre. On a dit auparavant qu'il y avait un mécanisme d'amorce pour le RDAP. Les opérateurs de registre doivent donc considérer la nécessité d'enregistrer l'URL de base RDAP pour leur CLD respectif avec Diana. Il y a une référence à cela dans le guide de mise en œuvre technique RDAP. Vous y trouverez un lien dans l'espace où on a publié les registres Diana. Le processus aussi est le même que pour les informations de délégation de toute autre mise à jour. Il est recommandé que l'on utilise le système de gestion de la zone racine, mais il y a également d'autres méthodes qui sont disponibles. Le site web de Liana les énumère. Mais sachez tout simplement que l'une des exigences est que le CLD et l'URL de base RDAP soient tout compris dans ce registre. Pour ce qui est de la fourniture d'une référence aux bureaux d'enregistrement qui sont parrains, c'est toujours une exigence. Le guide de mise en œuvre technique comprend d'ailleurs une exigence que les réponses RDAP des serveurs de registre, lorsqu'ils reçoivent des requêtes par rapport à des domaines, doivent contenir un objet de lien pour le serveur RDAP du bureau d'enregistrement. Donc pour aider les opérateurs de registre à se conformer, l'ICANN a également créé un répertoire central comme approche provisoire pour aider les bureaux d'enregistrement et les opérateurs d'enregistre à se conformer à cette exigence du RDAP. Où pourrait-on trouver une URL de base RDAP pour un bureau d'enregistrement? On prévoit d'avoir une colonne du serveur RDAP dans le registre existant de Liana pour les bureaux d'enregistrement qui sont accrédités avec l'identificateur Liana. Vous pouvez voir le lien ici à l'écran. Mais les opérateurs de registre et les registres en eux-mêmes sont également des fichiers d'amorce pour le RDAP et le RDAP du bureau d'enregistrement. Donc, il est possible d'accéder à ce fichier pour voir toutes les URL de base RDAP pour les bureaux d'enregistrement. Et à ce moment-là, il est possible de les inclure dans les réponses aux recherches de requêtes URL. Pour ce qui est des questions qui s'appliquent en particulier au bureau d'enregistrement, on a donc l'URL de base RDAP pour accomplir ce qu'on vient d'expliquer, et c'est que les registres doivent inclure ces informations dans leur profil. Il faut qu'ils s'assurent que leur URL soit enregistrée dans un répertoire central qui sera hébergé par l'ICANN. Et les bureaux d'enregistrement peuvent le faire. Ils reçoivent une notification, ils devraient recevoir cette notification plus tard dans le mois avec les instructions à suivre, mais ils peuvent le faire à travers un champ d'autoservice dans Radar, service qui devrait être disponible au mois d'avril 2019. Donc faites attention à cette notification pour vous y conformer et fournir votre URL. Quant aux personnes de contact pour les registres résumés, le profil RDAP du GTLD définit que les personnes de contact de chaque entité devraient contenir dans le champ pertinent, dans l'objet contact, l'identificateur objet du répertoire, le ROIT. Ce n'est pas le cas en ce moment pour certains registres, mais s'ils ont des identificateurs, ils doivent utiliser leurs propres identificateurs dans le système, ou alors leurs identificateurs locaux, comme on les appelle, plutôt que d'utiliser les registres et les identificateurs de l'opérateur de registre qui n'existent pas dans ce cas-là. Il est également possible de trouver cette réponse dans le profil de réponse de RDAP. Quant aux noms de domaine qui ne sont pas parrainés par le bureau d'enregistrement, même si un nom de domaine existe dans le GTLD pour lequel on envoie une requête, si un bureau d'enregistrement reçoit une requête de recherche d'un nom de domaine qui n'est pas parrainé par eux, l'exigence est qu'ils répondent avec la réponse HTTP 404, c'est-à-dire que les données ne sont pas disponibles dans leur serveur. Et comme je l'ai dit, c'est indépendant de l'enregistrement du nom de domaine parmi les TLD. Si la personne qui reçoit la requête n'est pas le bureau d'enregistrement parrain, la réponse devrait être HTTP 404. Quelques ressources maintenant qui, de notre avis, sont utiles pour les personnes faisant la mise en œuvre. On a différentes mises en œuvre de clients et de serveurs qui sont disponibles et qui peuvent être utilisées pour faire des tests. Il y a des projets de code ouvert pour les serveurs RDAP. Il y a DNS Belgium. Et je précise ici que chacun des noms contient le lien pour que vous puissiez accéder. Il y a Red Dog pour les serveurs aussi. Et pour les projets clients RDAP, on a un client web RDAP prototype de l'ICANN basé sur JavaScript, donc qui fonctionne complètement sur le navigateur de l'utilisateur final. Il y a également le code de CentralNIC qui est disponible, ainsi qu'un client web qui fonctionne déjà. On a DNS Belgium qui a sa propre mise en œuvre d'un client web, NIC Info et Open RDAP que nous vous encourageons à consulter et à prendre en considération au moment de d'évaluer vos propres considérations, disons. Voilà la fin de la présentation pour ce séminaire web. Cela dit, je vais céder la parole à Angelina et puis on passera à la séance de questions-réponses pour voir s'il y a des doutes. Merci, Eduardo. Nous avons déjà reçu certaines questions. Je les lirai. Si vous avez des questions, veuillez continuer à utiliser la salle de chat, présentez-vous sur la salle de chat et écrivez votre question. Il y a une question de Mia Yang de la compagnie de technologie Limited, Yang Technology Limited. Elle dit, pour les exigences d'amorce 2.2.1, on dit que les services RDAP doivent être enregistrés dans le registre de Yana d'amorce pour les bureaux d'enregistrement lorsqu'il sera disponible. En attendant, le registre pour les bureaux d'enregistrement a un service RDAP qui est disponible et à ce moment-là, l'opérateur d'enregistre doit être enregistré auprès de Yana de l'ICANN utilisant la clé de Yana comme identificateur. Donc, elle énumère ici les exigences et la question est, quel serait le service d'amorce des opérateurs d'enregistrement pour les bureaux d'enregistrement? Est-il disponible tout de suite? Si oui, comment peut-on y accéder? Autrement, comment pourrait-on l'enregistrer avec l'ICANN utilisant l'identificateur de Yana comme clé? Merci Angelina, c'est Eduardo au micro. Pour cette question, le mécanisme d'amorce pour les bureaux d'enregistrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas complètement défini. On a une solution provisoire de l'ICANN qui inclut l'URL de base RDAP des bureaux d'enregistrement pour identifier les noms de domaines qui sont demandés et pour lesquels on envoie des requêtes. Et comme j'étais tout à l'heure, pour enregistrer les URL de base RDAP des bureaux d'enregistrement, l'équipe devra recevoir une notification de l'ICANN sous peu. Mais en attendant, les informations peuvent être mise à disposition à travers Radar. Bien, on a une autre question de cette même personne qui dit, pour ce qui est des serveurs de nom et du profil de réponse RDAP, ce sont deux serveurs 2.9, la réponse RDAP doit contenir les serveurs de nom du nom et de l'utilisateur. Donc 2.9.3. où on dit que dans le cas d'un TLD où on spécifie le nom comme un attribut du nom de domaine, l'objet serveur de nom ne va pas contenir les membres suivants. Donc, les statuts mais l'objet du serveur de nom doit contenir une adresse IP qui énumère tous les registres GLOO pour IPv4 et IPv6. Comment pourrait-on vérifier si l'ETLD ou les serveurs de nom sont spécifiés comme étant des attributs dans notre domaine contient ces informations et quelles sont les informations? Gustavo Lozano prend la parole. En général, les opérateurs annoncent quel est le modèle qui supporte les attributs hôtes ou autres. Donc dans le message, il est déjà possible de voir d'emblée qu'est-ce qu'il supporte. Donc c'est comme ça que vous pourrez savoir quel est le modèle qui est supporté par le registre. Il est également important de préciser que les bureaux d'enregistrement doivent avoir toutes ces informations pour pouvoir envoyer ces commentaires ou ces réponses. Angelina, merci Gustavo. On a une autre question de Brian Mansfield de Google qui demande s'il y a des exemples de l'aperçu de J-Card avec ses codes de pays. Je n'en ai pas trouvé, il dit. C'était répondu en ligne à travers le chat par Francisco. Ce lien sera publié. Mais s'il s'agit surtout d'un lien qui montrera la version préliminaire qui est proposée dans le champ code de pays. On avait une autre question de Maxime Alzoba qui disait la spécification temporaire arrive à son échéance le 20 mai 2019. Est-ce que cela est annoncé dans la présentation? Eduardo Alvarez au micro. On a, c'est vrai, l'échéance de la spécification temporaire qui arrive. On est également en train de travailler sur la version finale du PDP pour l'approbation du conseil, pour leur adoption. Et je vais ici céder la parole à Francisco qui aura une réponse plus claire pour faire le suivi de cela. On a des problèmes de connectivité, donnez-nous un instant, s'il vous plaît. Bien, je vais répondre au nom de Francisco. Il demande également que les exigences de mise en œuvre d'AirDAP répondent à des exigences contractuelles et non pas nécessairement à la spécification temporaire ou au résultat de l'OPDP. C'est ça qu'il dit. Angelina, on a une question de PON Registry Ask qui dit par rapport à un lien qui est HTTPS. RDAP-client.virginie.ca. Est-ce que cela pourrait être utilisé comme une référence à suivre? Francisco, vous m'entendez? Angelina, oui, on vous entend, Francisco. Il s'agit d'une mise en œuvre client et non pas serveur. Mais vous pouvez l'utiliser pour envoyer des requêtes à votre serveur. Cependant, je pense que ce ne sera pas très utile pour la mise en œuvre d'un service.
C'est bon.
Angelina, merci Francisco. On vérifie ici pour voir s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues sur la salle de chat. Comme vous saurez, on a déjà tenu un autre séminaire web à 00h en minuit hier. Mais et il y a déjà eu d'autres questions, d'autres réponses, donc peut-être qu'on pourrait les partager pour tous ceux qui n'ont pas participé à l'autre. Comme ça, on aura ce séminaire. Michael Balance, SIP, demandait où devrais-je inclure la dernière mise à jour de l'événement de RDAP pour avoir tous les résultats. Tous les objets devraient-ils avoir les mêmes dates ou alors devraient-ils avoir un événement au niveau de la racine? Et la réponse à cette question était la réponse aux résultats de recherche de RDAP sont définis dans le RLC 7483, section 3, qui dit que la réponse comprend une gamme de réponses possibles pour la classe d'objets correspondantes dans la recherche. Dans ce rang-là, chaque objet contiendra la mise à jour correspondante dans la base de données RDAP. Je vais poser la question suivante et soit Francisco, soit Eduardo vont répondre en mon nom. Deuxième question, je n'ai vu des liens que vers l'objet du nom de domaine dans les requêtes du nom de domaine, c'est-à-dire mise en œuvre 3.2. Ces liens ne sont-ils pas demandés pour d'autres objets, comme les étiquettes de nom ou les serveurs de nom? Donc, si j'envoie une requête pour, et je montre un nom de contact par un serveur de nom, il n'y a pas de lien direct vers ces objets? Et dans nos micros, merci Angelina. Dans le profil RDAP, on demande des objets supplémentaires pour les réponses aux recherches de noms de domaine. C'est la disposition à laquelle on fait référence dans la présentation et à laquelle on fait référence aussi. C'est le document, c'est la section 3.2 du document. Pourtant, si on parle des objets des liens en général, il est reçu ces informations. On dit que chaque objet devrait représenter le lien pour l'URL de ce même objet utilisant le même type de rapport entre les deux. Donc, comme considération, il est possible de chercher dans les DHC et consulter-les pour voir. Vous verrez que le lien avec le type de rapport n'est pas compris dans le serveur et que dans ce cas-là, les utilisateurs ne peuvent pas consulter toutes les autres instances. Angelina, merci. On a une question de Michael Balan, SIP. Comment est-il possible de faire la distinction entre les adresses de contact localisées et les internationalisées? Est-ce qu'on utilise les deux dans un même contact? Francisco, micro. Il me semble que cela fait allusion aux adresses présentées par les titulaires de nom de domaine en arabe ou en chinois, par exemple, qui ne sont pas traduites en anglais ou translittéré en script latin. Si c'est ça la question, c'est une question qui est toujours en considération dans la mise en œuvre de la politique pour la traduction et la translittération du nom. Malheureusement, on n'avait pas considéré la possibilité d'avoir différentes versions du nom de domaine. On a une autre question de Guy Balski du registre Google Registry. ISO 3.1.6.1.alpha.2 paramètres implique-t-elle? Y a-t-il des exemples de VCard avec ces paramètres? Ensuite, on est prof. Ici, vous faites référence à l'utilisation de ce paramètre et à d'autres paramètres qui ont des exigences d'exploitation. J'ai publié un lien sur le chat. On est en train de le considérer et on espère que ce sera approuvé d'ici certains mois, mais les paramètres pour les V-cards sont toujours en considération, comme j'ai dit. Donc, je publierai ici le lien aux informations qui sont disponibles où vous trouverez les éléments de la V-card. Angelina, au micro, merci. On a aussi reçu une question de Ben Simon Ludovic, qui était posée en français. On a pu obtenir une traduction et il demandait dans notre service RDAP en tant que serveur d'enregistrement, que devrait-on montrer si toutes les données sont déjà dans la base de données de l'opérateur d'enregistrement? Ça va le fameux micro. Oui, RDAP, en fait, ne fait pas le stockage de données. L'exigence de mettre en œuvre RDAP, comme j'ai dit tout à l'heure, ne demande pas le stockage de données. L'exigence est de répondre dans le serveur site RDAP, où vous trouverez toutes les réponses, et il est recommandé par le profil GTL. Donc, j'espère avoir répondu à la question avec cela. Merci, Gustavo. Je viens au micro. Je vérifie s'il y a d'autres questions dans la salle. J'ai envoyé un message, il y a des gens qui lèvent la main. Il faudra que vous envoyiez vos questions à travers le chat. C'est apparemment ce qu'ils sont en train de faire. Il y a une question de Michra qui demande si c'est possible de recevoir un PDF et je leur rappelle que nous allons publier la présentation de ce séminaire web ainsi que les enregistrements sur le site web d'ICANN.org dans la partie RDAP. Brian Milford de Google demande par rapport aux codes de pays qui ont des paramètres de codes de pays et des noms de domaine. Il y a une autre chance qui n'est pas enregistrée, je ne suis pas sûre où cela ira. Vous avez dit qu'on ne devrait pas inclure les noms de pays dans leur RDAP. Donc l'exemple dans le document n'est probablement pas pertinent.
Donc, est-ce que vous pourriez clarifier cela? Oui, tout à fait. Je crois que c'est une excellente question qui a été posée. Donc cela décrit donc le profil lorsque l'on utilise, les noms de pays ne doivent jamais être utilisés à la place des codes pays. Donc, il ne faut pas inscrire le nom de pays, il faut utiliser les codes pays. Donc, il y a un auteur de la proposition qui est sur le chat et qui a fait un commentaire à ce sujet. Donc, la proposition a été approuvée par l'ISG. Et donc, cela a été publié. En tant que paramètre, lorsque vous faites votre mise en œuvre, vous devez utiliser ces paramètres et ne jamais utiliser les noms de pays. Merci. Donc, nous d'autres questions. Nous avons une question. Voyons un peu. De Robert Fox. De BB Online. Je pensais que l'ICANN allait abolir le Whois résumé avec un Whois détaillé. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de produire un serveur RDAP? Telle est la question. Francisco au micro. Quelques points à prendre en compte. Premièrement, il y a différents champs qui sont fournis par les bureaux d'enregistrement. Donc la date d'expiration, par exemple. Également, si vous regardez le rapport final de l'EPP, il y a des recommandations qui existent, qui vont dans diverses directions. Ça, c'est au niveau du EPDP. Les personnes ne sont pas toujours d'accord, donc, pour s'engager dans telle ou telle direction. Donc, je crois qu'il y a encore un besoin d'attendre pour voir quelle sera véritablement la décision prise, en fin de compte. Merci beaucoup, Francisco. Question suivante de Eloy. Je sais que RDAP est obligatoire pour les GTLD. Et pour les CCTLD, qu'en est-il ? Est-ce que c'est une fonctionnalité désirée ? Francisco, ah pardon. Merci Angelina. Donc là nous parlons des GTLD, n'est-ce pas ? Il y a des contrats entre l'ICANN et donc des prestataires de services. En ce qui concerne les CCTLD, il y a des opérateurs de registre aux CCTLD. Ils doivent choisir entre RDAP ou pas. Mais il y a des CCTLD qui offrent déjà des services RDAP par rapport au Bootstrap, par exemple, et par rapport aux fonctions YANA également. Mais ils ne sont pas obligés d'avoir un service RDAP en tant qu'opérateur CCTLD. Ici, nous parlons principalement des GTLD. Joyce Lynn nous pose la question suivante. On m'a dit que les bureaux d'enregistrement doivent publier, avoir des serveurs RDAP, que ce soit détaillé ou résumé. Francisco, pourriez réitérer cela, s'il vous plaît ? Oui, c'est quoi la question ? La dernière fois, on m'avait dit que les bureaux d'enregistrement doivent publier, avoir des serveurs RDAP, que ce soit détaillé ou pas détaillé. Donc, les serveurs RDAP, oui. Notre problème, c'est l'enregistrement, qu'il soit détaillé ou résumé. Mais nous devons avoir un système de réponse RDAP, ça c'est une obligation. Merci de clarifier. Nous avons une question d'Andrés. Donc le 7482 RFC souligne donc dans ce RFT qu'il y a des capacités de recherche étendues. Et des recherches de chaîne. Nous ne voulons pas offrir ces recherches de fonctions avec des astérix. Donc, est-ce que c'est des recherches de chaîne partielles ? Et ça continue. On accepterait uniquement des recherches pour un nom de domaine spécifique et si c'est négatif, eh bien là, on reviendrait au code RDAP HTTP. Et là, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui est obligé par rapport aux recherches de chaînes. Oui, eh bien, c'est Eduardo. Alors, ça dépend. Le soutien pour les WHOIS, où on peut faire des recherches, effectuer des recherches. Donc, il y a certains opérateurs de registre qui ont ça dans leur contrat. Néanmoins, les fonctions de recherche peuvent être ajoutées, mais en prenant en ligne de compte les critères de respect de la vie privée. L'authentification des utilisateurs dont on avait parlé, et les données publiques, non publiques, il faut garder cela à l'esprit, ça dépend véritablement. de votre contrat, hein, de votre contrat en tant qu'opérateur de registre. Donc, ça dépend des fonctionnalités qui existent, donc des recherches. Est-ce qu'on a un moteur de recherche, capacité de faire des recherches ou pas? Merci, Eduardo. Eh bien, une question de Peter Green. J'ai peut-être raté quelque chose, mais est-ce qu'il y a un format standardisé ou un critère pour inscrire des URL de base pour les registres, des adresses universelles, donc? Oui, c'est Eduardo, encore une fois, Peter. Eh bien, il n'y a pas, non, de format obligatoire standardisé à suivre. Donc, il y a les mécanismes d'amorce qui existent. Il faut se baser là-dessus. Vous pouvez sélectionner cela en tant que registre ou bureau d'enregistrement. Mais ça, il faut absolument utiliser le HTTPS. Benjamin de Ludovic Ben-Simon d'Orange nous dit « Les bureaux d'enregistrement peuvent avoir des périodes d'attente plus longues que la fin du mois d'août pour mettre en œuvre le serveur RDAP. Est-ce que ça peut être une date un petit peu plus tardive ?» Il demande de Ludovic Ben-Simon. Les bureaux d'enregistrement et registres ont la même date limite, qui est fixé donc au 29 août ou 26 août 2019. C'est une date fixe, une date limite, butoir. Merci beaucoup. Je revois s'il y a d'autres questions qui ont été posées. J'aimerais rappeler à tout le monde que nous allons publier l'enregistrement des webinaires ainsi que les transparents dans la section RDAP du site ICANN.org. Maxime Alzoba demande, est-ce que les opérateurs de registre ont besoin de RCEP pour le RDAP, donc RCEP, R-S-E-P, pour donc ce protocole d'accès aux données d'enregistrement des noms de domaine? Oui, c'est Francisco, une nouvelle fois au micro. Donc non, vous n'avez pas besoin de RCEP pour mettre en œuvre le RDAP. En fait, on doit mettre en place un service RDAP avec d'autres ressources, c'est tout à fait possible. Vous n'avez pas besoin de RCEP. Très bien, il ne reste que quelques minutes. Une ou deux questions supplémentaires, si vous avez la possibilité de poser des questions encore très rapidement en indiquant bien question avant et après la question que vous indiquez dans le chat sur Adobe Connect. Eh bien, je vois une question qui arrive. La question de Mick est la suivante. Est-ce que le RDAP est en conformité avec le RGPD de l'Union européenne? Francisco au micro. Donc RDAP, c'est un protocole. Un protocole d'accès, de requête, pour obtenir des réponses. Et ça ne définit pas le contenu, si vous voulez, la teneur donc des données. Donc moi, je ne suis pas avocat, mais on pourrait dire que le RGPD, c'est quelque chose qui a plus trait aux données. La manière dont on met en œuvre, hein, et la conformité également. Donc c'est un petit peu différent le RDAP. Merci beaucoup Francisco. Nous avons une question de Laurent. Est-ce que les datasets est une obligation ou pas pour les domaines du serveur RDAP? Oui, bonjour Laurent, Eduardo, une nouvelle fois au micro actuellement. Le DNSSEC, ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Ça devrait être utilisé, le DNSSEC, dans ses extensions de sécurité. Je vois quelques personnes mais on est presque à la fin de notre heure de webinaire. J'aimerais également vous rappeler aux participants que si on n'a pas répondu à votre question durant ce webinaire, vous pouvez nous envoyer globalsupport@icann.org vos questions, nous y répondrons, nous reviendrons vers vous. Donc envoyez un courriel à globalsupport@icann.org, nous avons une question de PON. Est-ce qu'il y aura un audit de l'ICANN après la mise en œuvre du protocole d'accès aux données d'enregistrement des noms de domaine, RDAP? Francisco au micro, je ne suis pas au courant d'un audit de l'ICANN à l'horizon, mais ce n'est pas exactement mon domaine d'expertise. Soumettez, s'il vous plaît, votre question au courriel globalsupport@icann.org. Eh bien, nous sommes arrivés à la conclusion de notre webinaire. J'aimerais remercier toutes les personnes nous ayant rejoints et vous rappeler que vous pouvez toujours poser vos questions à globalsupport@icann.org. Merci beaucoup aux personnes ayant présenté et aux participants. Merci beaucoup de toutes vos questions. L'enregistrement est disponible sur icann.org dans la section RDAP. Merci beaucoup.